Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
On va parler de Paul, Philémon et Onésime. Et si on devait faire une synthèse du message, ce serait, le thème serait revivre. Revivre. Vivre à nouveau. Vous êtes-vous posé déjà la question? J'aimerais tellement refaire ma vie. Si j'avais la possibilité, je ne ferais pas les mêmes choix.
Je ne
ferais pas les mêmes erreurs.
Est-ce
que quelqu'un s'est déjà posé cette question ou s'est déjà formulé ces phrases? Amen. Bon. Est-ce que les maris se sont déjà posé ces choses-là? Les épouses se sont déjà posé ces questions-là? Ok. Gloire au Seigneur. C'est le seul moment où j'attendais pas un amen. Donc ça va. On va lire, c'est pas habituel, mais je vais faire une longue lecture. On va lire une lettre, c'est la lettre de Paul à Philémon. Je vous invite donc à ouvrir votre Bible dans cet endroit, dans l'épître de Paul à Philémon. Amen. Et quand vous avez fini de tourner, vous dites amen.
Pour
que je sois sûr que vous l'ayez trouvé. J'entends encore des pages tourner. Qui est persuadé que Philémon n'existe pas? Je vous assure, ça existe. Ok. Est-ce que quelqu'un a trouvé et peut dire amen?
Okay.
Alors je lis pour vous cet épître et écoutez bien. Et lisez avec moi.
Hein.
Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia et Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Vous voyez, dans la maison de Philémon, il y avait une église. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande, c'est Paul qui demande à Dieu, que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour. Car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ en toute liberté la liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité, au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ, je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui est maintenant utile, à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc, tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Amen. Fermons nos yeux, prions le Seigneur qu'il bénisse cette parole ce matin. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ces moments précieux, Seigneur, ces moments divins, éternels, que tu veux placer dans nos cœurs. Seigneur, je te prie, Seigneur, que cette parole puisse ancrer, être au plus profond de nos cœurs et ne permet pas, Seigneur, à l'ennemi, Seigneur, d'en reprendre la semence. Seigneur, mais que ce matin, nous puissions garder cela, que cela puisse prospérer, porter du fruit. Oh Seigneur, je te le demande comme une prière et je t'en supplie, Père éternel, que nous ressentions de ce lieu meilleur, Seigneur, béni, oh Seigneur, plus grand en toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre place. Alléluia. Amen. La lettre que nous venons de lire est un passage de l'évangile qui est vraiment à part de tout ce que nous pouvons trouver dans la Bible. C'est une lettre qui est différente de toutes les autres lettres. La plupart des lettres s'adressent à des églises. L'apôtre Paul écrit aux Colossiens. Il écrit à l'église de Rome. Il écrit à l'église de Philippe. Mais là, c'est un courrier personnel. La lettre que nous venons de lire, c'est comme si c'était une lettre qui vous était adressée à vous en privé. Et cette lettre intime, cette lettre qui est privée, elle nous est parvenue jusqu'à nous. Il y a des messages incroyables dans cette lettre. Et pendant au moins deux dimanches, nous allons parler de cette épître à Philémon. C'est l'épître de quelqu'un, de Paul, qui écrit une lettre à un riche homme d'affaires. Et ce riche homme d'affaires est à Colosse. Et cet homme d'affaires, il a une maison tellement grande qu'il a, une église dans sa propre maison. C'est un homme qui a un rôle très important dans la communauté chrétienne.
C'est
un chrétien très important là où il est. Et l'apôtre Paul va lui parler d'un homme que lui ne va pas reconnaître au début parce que il ne le connaissait pas par son nom. Il lui parle d'un esclave. Je vous en parlais un peu plus tout à l'heure, mais les esclaves n'avaient pas de nom. On enlevait toute identité à un esclave. Et je vais vous le prouver, je vais vous le montrer. Et donc l'apôtre Paul lui parle d'Onésime. Et il lui parle de cet homme, Onésime, qui a été esclave dans sa maison. Et cet homme qui a été esclave dans la maison où il y avait une église. Il en a eu assez de sa condition d'esclave. Il a volé son patron. Il a pris de l'argent, il s'est enfui. Et ce qu'il y a, c'est que dans sa fuite, Onésime va être repris. Et Onésime, cet esclave, se retrouve en prison. Et il n'a pas de chance, il est mis en prison dans la même cellule que l'apôtre Paul. Et là, l'apôtre Paul va lui prêcher l'évangile. L'apôtre Paul va lui annoncer la bonne nouvelle, qu'il peut être quelqu'un changé. L'apôtre Paul va lui apporter un autre regard sur lui-même. Il va lui montrer que Onésime a de la valeur. Et Onésime va donner sa vie à Jésus-Christ. Et cet homme qui était un esclave
et
devient quelqu'un qui s'appelle maintenant Onésime. C'est Onésime signifie qui est utile.
Onésimos nishana kuma ov oktakara.
Jusqu'à présent, il était considéré comme un objet. Jusqu'à présent, Onésime n'avait aucune valeur. Parce que les esclaves n'avaient aucune valeur. Ils n'avaient pas de passé, ils n'avaient pas d'histoire, ils n'avaient pas de famille. Ils n'avaient aucun droit civil. Il n'était pas citoyen de la ville. Il n'y avait pas de syndicat, il ne devait pas jamais revendiquer quoi que ce soit. Ils étaient la propriété de leur maître dans la maison où ils étaient. Comme une chaise, peut-être la propriété, votre propriété chez vous dans votre maison. Onésime était la propriété d'un maître. Et donc, au travers de cette série de messages, vous allez voir et vous commencez à comprendre pourquoi ce thème de ce message s'intitule « Revivre ». Parce que Onésime va revivre. Sa condition va changer. Sa vie va changer. Son estime de lui-même va changer. Le regard que les autres ont sur lui va changer. Et le regard même de son ancien patron, de ce chrétien-là, lui-même va changer. Ce qui se joue là dans cette épître, dans cette lettre, c'est déjà un problème de relation. Nous allons voir que Paul va travailler à nouer une relation fraternelle entre Philémon et Onésime. On va parler un petit peu du ressenti, ce qu'a pu ressentir Philémon de se retrouver face à Onésime. On va un petit peu penser qu'est-ce qu'a dû penser Philémon quand Onésime, cet esclave, revient vers lui.
Hein?
On va aussi parler de ce qu'Onésime a pu ressentir quand il est revenu voir celui qui l'a volé. Et on va voir aussi le rôle de l'apôtre Paul. Ce rôle de réconciliation. Donc, en parlant de Philémon, on va parler des blessures et de l'abus. En parlant d'Onésime, on va parler aussi de la culpabilité de nos fautes. Et en parlant de Paul, on va parler de la réconciliation. De la réconciliation.
Amen.
Ça vous convient? C'est pas le choix, de toute façon, c'est ce que j'ai préparé jusqu'à cette nuit. Donc, on va parler d'apôtre Paul déjà. La plupart des gens vivent des problèmes de relations. La plupart des problèmes des gens, c'est un problème de relation. Les gens, ils ont toujours un problème, par exemple, par rapport à l'argent, ils ont toujours un problème avec la relation qu'ils ont avec l'argent. Vous avez remarqué que parfois, l'argent peut être un problème? Il est considéré comme une personne. Nous, on l'aime, mais parfois, elle nous aime pas. Mais il y a la plupart des problèmes, donc c'est l'argent, mais c'est surtout des problèmes de relations avec les autres. Des relations entre époux, des relations entre parents et enfants. Des relations avec son patron. Des relations avec la famille de Dieu. Et là, ce que l'apôtre Paul a identifié, c'est un problème de relations entre Onésime et Philémon. Et vous pouvez lui dire, mais pasteur, mais comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de problème? Onésime l'a volé. Mais le rôle de l'apôtre Paul va être de réconcilier ces deux personnes et d'amener la paix au milieu de l'église. Ça c'est le ministère de l'apôtre Paul, et c'est le ministère, je vous annonce une nouvelle, que vous et moi nous devons faire. L'apôtre Paul nous dit aux Corinthiens que tout vient de Dieu. Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même. Par Jésus-Christ. Et qui nous a donné à nous le ministère de la réconciliation. Dites à votre voisin, réconciliation. Amen. Le rôle du chrétien premier, c'est de réconcilier les choses. C'est jamais d'amener de la discorde. Jamais d'amener un problème. Mais c'est de tout faire pour qu'il y ait toujours la réconciliation. Et la particularité du christianisme, c'est que les gens ont une très bonne relation en général avec Dieu.
Ils
n'ont aucun problème avec Dieu. Ils veulent aimer Dieu, ils veulent servir Dieu, ils veulent louer Dieu. Et puis ils sentent, oui, moi je suis bien avec Dieu. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont des problèmes avec les chrétiens. Des problèmes avec les autres. La parole de Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres. Et quelqu'un a dit un jour, mais moi j'ai des... Moi, je n'ai pas de problème avec les uns, mais c'est avec les autres. Est-ce que vous voyez là que l'Église, c'est une relation? Et le défi du chrétien, c'est de transformer notre relation que nous avons avec Dieu en relation que nous avec nos proches. C'est ça le défi du chrétien. Tout est renfermé, toute la loi, toute la parole de Dieu est renfermée dans ce commandement. Ce docteur de la loi est venu voir Jésus un jour.
Qu'est-ce
que je dois faire pour avoir la vie éternelle?
Et
Jésus lui dit, mais qu'est-ce que tu vois dans la loi? Et le docteur répond, bah, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Et là, tout le monde applaudit, il a eu la bonne réponse. C'est un bon docteur de la loi, il connaît la parole. Et ça aurait pu s'arrêter là, mais ce qu'il y a, c'est qu'il rajoute quelque chose, ce docteur. Et il dit, mais et qui est mon prochain? Voyez-vous, et c'est là que Jésus-Christ donne la parabole du bon samaritain. Et dans cette parabole, je ne vais pas vous la dire ce matin, mais il est évident que ce docteur-là n'avait pas de problème de relation avec Dieu, mais il avait un problème de relation à savoir qui était son prochain. Et c'est là la particularité de l'Église. C'est qu'elle connaît Dieu, elle veut aimer Dieu, mais elle n'applique pas, elle concrétise pas la relation qu'il a avec Dieu, avec son prochain. Maintenant, statistiquement, je sais que je parle ici à une majorité qui ont des problèmes de relation.
problemlerinin.
Ou qui ont eu des problèmes de relation.
Tamunetselen.
Ou qui vont en avoir.
Kampitiuninen.
Et peut-être que vous dites, pasteur, ne me parle pas d'entrer en relation avec quelqu'un qui m'a blessé. Je ne crois plus à la réparation.
Je
ne crois plus à la restauration. Je ne crois plus à ça. J'ai eu trop mal. J'ai été trop blessé. Laissez-moi vous donner une nouvelle, c'est que ça fait partie de la vie, ça.
À partir
de moment où vous avez deux personnes qui sont là en relation,
vous
avez là un potentiel à ne pas vous entendre.
Et
même avec la personne que vous aimez le plus,
il se peut
qu'un jour vous ayez un problème de relation avec cette personne. Parce que vous êtes pas, vous pensez pas tout le temps pareil. On n'est pas tous faits pareil.
On
n'aime pas tous les yaourts nature. Et on n'aime pas tous la ratatouille ou les épinards. Voilà. On n'aime pas tous faire du foot. On n'aime pas tous les chants rythmés ou les chants lents. On n'aime pas tous les mêmes artistes. Et donc, à chaque fois, il y a là des problèmes de conflit de pour rompre une relation. Mais moi, j'aimerais vous amener ce matin à croire à l'impossible. À croire quelque chose qui est absolument merveilleux. La parole de Dieu nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez que rien n'est impossible à Dieu? Alléluia! On a du mal à croire ça parce qu'on n'a pas de mal à croire ça parce qu'on est en relation avec Dieu, il n'y a pas de problème. Je crois que Dieu peut tout faire. Maintenant, est-ce que vous avez de la difficulté avec ce verset? Rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit.
Vous avez
de la difficulté avec ça? Vous pouvez répondre. Vous ne savez pas si vous devez dire oui ou non, hein? Mais si vous dites oui, moi j'ai plein de requêtes, là, je vais vous les donner parce que je n'ai pas toutes les réponses, alors j'aimerais que vous puissiez m'aider.
Non,
on a du mal à croire, on a du mal à appliquer ce verset-là. Que tout est possible à celui qui croit, parce que...
Hein?
Donc le problème est plus nous concernant que le problème de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire? C'est que le problème des relations, le problème pour réparer les choses ne vient pas de Dieu, mais il vient de nous. Et en fait, pour changer les choses, faut d'abord qu'on change nous-mêmes. Faut d'abord que ça change dans mes pensées, pour que je commence à changer. Maintenant, j'aimerais toutes les femmes. Est-ce que vous avez réussi à changer votre mari? Les femmes peuvent répondre. Oui ou non? Non? Oui? Non? Est-ce que les maris ont réussi à changer leur femme? Non plus. Moi j'ai essayé un peu, hein, mais j'y arrive pas. J'ai capitulé, j'ai laissé tomber. Je sais que lorsque mon épouse, le vendredi matin, prend le balai, il est hors de question de lui proposer un autre programme. J'ai compris que c'était comme ça. Et je pouvais rien y faire. Je sais que lorsque mon épouse a décidé quelque chose, et rien pourra la changer. Et aussi, elle a compris que parfois, c'est la même chose avec moi. Elle dit pas amen, mais elle la pense pas moi. Et parfois, quand je sais qu'elle pourrait éventuellement me faire changer d'avis, Eh ben, je lui dis pas ce que je veux faire. Bon, c'est pas rigolo pour tout le monde. Bon, mais est-ce que je parle à quelqu'un ici ce matin?
Alléluia.
Ok. Amen. Il est important que nous nous changions. Que nous faisions une œuvre de changement dans mon esprit. Mon esprit est tellement corrompu par la puissance du péché. Et ce qui est là en moi, qui est charnel, va m'amener à faire des choix destructifs pour ma vie.
Et
ce que je sais, c'est que si je vis toujours dans la blessure, je vais blesser les gens. Parce que les gens blessés blessent les gens. Et je sais que les gens guéris guérissent les gens. Les gens bénis bénissent les gens. Et c'est le propos de ce message ici ce matin, c'est que vous compreniez ça. C'est que Dieu veut que vous soyez réconciliés avec vos femmes, vos maris, vos enfants, vos frères et vos sœurs dans la foi. Et que dans ma pensée, je veux absolument être renouvelé par le Saint-Esprit pour bien faire les choses. Parce qu'il y a un piège pour rompre des bonnes relations. Et avant d'aller plus loin, laissez-moi vous donner ces quatre pièges rapidement. Le premier de ces pièges, c'est la médisance. C'est parler sur quelqu'un. Et écoutez, je vais être très rapide. On parle des autres quand on ne parle pas assez avec les autres. Très important ce que je dis. On parle des autres quand on ne parle pas assez avec les autres. Quand j'ai un problème, la personne qui est toujours en train de parler sur quelqu'un ou sur... Voilà. C'est de sa faute, c'est lui, la critique, etc. C'est quelqu'un qui a un problème de communication avec les autres. Et ça, c'est la médisance. Et ça, c'est un péché. Des gens qui parlent derrière les autres, c'est un péché. La deuxième chose qui brise des relations, c'est le jugement. C'est le jugement. Dites jugement. On juge les autres quand on ne se juge pas assez soi-même. Parce que si je suis honnête et que je me regarde moi-même, si je me juge moi-même, avec une grande honnêteté, je ne peux pas parler sur quelqu'un. Je ne peux pas juger quelqu'un. La Bible dit, qui es-tu, toi qui juges? Moi, quand je parle avec quelqu'un, je promets, les personnes que je rencontre en soins pastoraux, je leur promets de jamais les juger. Quelle que soit la douleur, quel que soit ce qu'ils ont fait dans leur vie, quelles que soient les choses les pires qu'elles aient faites, moi, je ne me permets jamais de juger ces personnes. Parce que je ne sais pas si j'étais à leur place, si je n'aurais pas fait les mêmes choses ou pire encore. Et l'autre chose, c'est que la personne qui est là, elle n'a pas besoin d'un jugement, elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'une main tendue. Et la chose est celle-ci, c'est que lorsque l'on juge quelqu'un, en fait, on disqualifie la personne. Et on la force à rester prisonnière de la pensée que l'on a sur elle. Et cette personne-là, qui sait que vous l'avez jugée quand elle est dans votre présence, eh bien, naturellement, elle essaye de compenser le préjugé par une attitude, par des choses, par. Elle essaie de compenser pour prouver que vous avez tort. Ça, c'est l'attitude d'une personne qui ressent le jugement. Et ça, on doit jamais faire ça. On ne doit jamais juger. Moi, j'ai compris que derrière chaque histoire, il y a une histoire.
Ես հասկացա, որ ամեն պատմության հետևի մի պատմություն կա։
Derrière chaque personne que je rencontre, chaque problème, je sais que à l'origine il y a quelque chose.
Գիտեմ, որ մի մարդու problème-ի մեջ դրա սկզբի մի problème կա,
chaque
problème,
chaque comportement, chaque parole.
Մի ամեն խոսքի
վարձի հետևին sous-jacente là.
Mi banque, dran zaraj banque.
Comprenez que quand vous voyez un skinhead dans la rue, quel ou les gothiques, etc. Derrière ça, il s'est passé quelque chose.
Je
ne peux pas me permettre de regarder, de porter un regard de jugement. Regardez là. Essayez de comprendre qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie qui l'a déformé, cette personne. Et je crois qu'il y a des personnes ici qui sont blessées, qui ont été jugées. Et je prie que vraiment vous puissiez être restauré dans votre vie.
Et
vraiment de tout mon cœur, moi je veux m'élever contre tout jugement qui pourrait être mis quelque part. Et à la place, j'aimerais mettre de la compassion et de l'amour.
Vous savez,
l'enfant qui fait des bêtises souvent recherche l'attention de ses parents.
Et quand un
enfant fait des bêtises, les parents, la solution qu'ils trouvent, c'est le frapper. Mais vous savez qu'au fond de lui-même, cet enfant-là, inconsciemment, il est content parce que vous êtes occupé de lui.
Non,
je ne veux pas encourager à frapper
comme,
pour vous dire, tiens, je m'occupe de mon enfant. Non, essayez de comprendre pourquoi. Attention, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais derrière chaque comportement, il y a une raison à ça. L'autre chose qui brise les relations, c'est le rejet. Toujours sur le jugement, la Bible dit que vous serez mesuré comme vous avez mesuré. Alors faites attention comment vous jugez vos frères et vos sœurs, vos amis, votre famille, les églises. Faites attention à comment vous faites, comment vous parlez. Parce que comment vous parlez, vous serez jugé comme ça. L'autre chose qui brise les relations, c'est le rejet. Le rejet, c'est mettre de côté quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que moi j'exige.
Hein?
Je rejette quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que moi. Ou en tout cas les valeurs que moi j'exige de lui. Et avec les gens, moi j'ai pu voir qu'on rejette les gens sur les choses dont on a peur soi-même d'être rejeté.
Je vais
répéter ça fort pour que ça reste bien. Je vais le dire doucement. On rejette les gens sur les choses dont on a peur soi-même d'être rejeté. On parle de la culture. On parle du style de vie. On peut parler de la parole de Dieu, de la doctrine. Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a plusieurs interprétations de cette vérité.
Et
moi, je ne veux juger personne pour ça. Rejeter personne pour ça.
Vous savez,
moi, j'ai reçu un mail cette semaine ou la semaine dernière. Une personne avec qui je suis en travail.
Et
cette personne m'écrit, cher frère, cher pasteur, je viens vous demander de prier pour moi. Je suis seul depuis 12 ans et la solitude me pèse depuis 3 ans. Comme vous pouvez le lire sur mon profil, je suis maman de deux beaux garçons de 14 ans et 12 ans. J'ai fait ma vie à ma façon sans penser à Dieu. J'ai connu Dieu dans une église pentecôtiste. Aux États-Unis, à l'âge de 24 ans. Puis depuis le 7 avril de cette année, j'ai trouvé ce site et j'en attends beaucoup. J'ai besoin de partager mes problèmes avec quelqu'un. Et je vous ai choisi pour prier pour moi. Il y a bien une église à une heure de chez moi.
Et
une autre beaucoup plus près.
Mais
je n'ai pas envie d'y retourner.
Pourquoi?
Parce que les gens me connaissent. Et je crains leur jugement.
Il
doit y avoir à peine une cinquantaine de membres. Et je suis mal à l'aise de ne pouvoir me confondre avec la foule pour louer Dieu et chanter Dieu. Est-ce que vous ressentez la douleur de cette femme qui a envie de se retrouver dans une église, qui a envie de se retrouver avec des frères et des sœurs pour chanter, pour louer Dieu? Et ce qui la prive de cette communion avec Dieu, c'est la peur du jugement et du rejet des autres. Moi, ça me fend le cœur. Moi, ça me brise le cœur, ça. Ça me brise le cœur. C'est quoi ça? Ça brise des relations. Le rejet. Le jugement. Ça brise des églises. Moi, je suis rentré dans une église il y a plusieurs dizaines d'années. Et moi, j'étais jugé dans cette église parce que j'avais une moustache.
Non,
ça vous fait rire aujourd'hui. Vous savez, mais dans cette église tellement légaliste que
pour avoir
une moustache,
c'est
vous dans la Bible, tu peux
pas. Hein?
Tellement blessé que je vous en parle aujourd'hui encore.
Vous
savez, c'est important de savoir comment on parle.
C'est
important de savoir comment on vit.
Et
de savoir ce que à qui on croit, qu'est-ce qu'on fait ici. Moi, je suis dans l'église pour louer Dieu. Je
ne
suis pas là pour regarder l'un ou l'autre. Et s'il y a un problème sur l'un ou sur l'autre, vous savez quoi, mon cœur, c'est pour l'aider cette personne. Et aujourd'hui, il y a une œuvre du diable qui essaye de déchirer comme ça l'église. L'église, c'est une relation, c'est d'abord une relation les uns avec les autres. Diapo 4, la Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres. Servez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Croyez, soyez bons les uns envers les autres. Consolez-vous les uns les autres. Édifiez-vous les uns avec les autres. Veillez les uns sur les autres. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Maintenant, on peut. Ça, je vous ai parlé de ce qui détruit des relations. Et des choses qui blessent, qui font mal. Mais je vous le dis ce matin, il y a une œuvre de réconciliation. Il y a des choses qui bénissent et qui renouent les choses. Il y a des choses qui bâtissent. Et pour vous qui êtes ici ce matin, vous devez comprendre que vous pouvez faire la différence dans la vie de quelqu'un, comme Paul a fait la différence dans la vie de Philémon qui avait été blessé par Onésime. L'apôtre Paul a fait cette œuvre de réconciliation entre Onésime et Philémon.
Alléluia!
Il y a quelque chose de miraculeux que nous pouvons vivre, que vous pouvez vivre dans votre propre vie. L'apôtre Paul, maintenant, quand on lit cet épître, l'apôtre Paul aurait pu bien écrire à Philémon, voilà, je t'aime, c'est super.
Oh,
et j'ai entendu parler de ta foi et de ton amour pour tous les saints, c'est magnifique. Et puis faire semblant de pas parler d'Onésime.
Vous voyez,
Tiens, j'ai rencontré quelqu'un qui te connaît, mais bon, vous verrez ça ensemble, hein.
L'apôtre
Paul n'a pas fait semblant. Il s'est impliqué dans la réconciliation.
Et
laissez-moi vous dire que si vous voulez être réconcilié avec quelqu'un, vous devez vous impliquer. Et peut-être que vous avez besoin d'un médiateur, peut-être quelqu'un qui va vous aider à réconcilier les choses. Et Paul, maintenant, il sait sur quoi il va manœuvrer pour faire cette œuvre de réconciliation. Pour que le cœur de Philémon s'ouvre à la grâce et à la compassion
Och Philemon sista batsvi nejmana.
L'apôtre Paul va comme on dit hein, il va la jouer fine hein.
Borosara kale.
C'est un bon chrétien Philemon.
Philemon bari la.
Et justement, l'apôtre Paul va parler là-dessus. Vous voulez savoir quel est le problème de Philémon malgré tout? On va le lire là. C'est l'apôtre Paul. Je rends grâce continuellement à Dieu. Hein, je rends continuellement grâce à Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de ta foi, de la foi que tu as au Seigneur Jésus, et de l'amour pour tous les saints. Philémon, il a un problème à ce niveau-là. Vous dites, mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que... c'est que c'est quelqu'un de spirituel. Pasteur, je pensais pas que c'était un problème.
Pasteur, tu disais, c'est un problème.
Et pour Philémon, c'est... En fait, l'apôtre Paul va jouer là-dessus. Et l'apôtre Paul, pour changer l'attitude de Philémon, il va se servir de ça pour changer le cœur de Philémon. L'apôtre Paul est en train de lui dire, Philémon, tu sais quoi, ce que j'ai entendu de toi, ça a parcouru le ciel. C'est parvenu de Colosse jusque dans ma prison à Rome. J'ai entendu parler de ta foi. Et j'ai entendu parler de ton amour. De ta foi que tu as pour le Seigneur. Et de l'amour que tu as pour tous les chrétiens. Et ben justement, Philémon. J'ai quelque chose à te présenter. Est-ce que vous commencez à comprendre? L'apôtre Paul va se servir de ça comme levier pour réparer les choses. L'apôtre Paul fait appel à la consécration de Philémon. Il va lui parler de sa foi. Et il est en train de lui dire, Philémon, si tu as de la foi, tu sais quoi, ça doit se manifester. Hein. J'entends parler de toi, que tu es un homme bon, que tu as la foi dans le Seigneur. T'es un super chrétien, tu ouvres ta maison et tu fais des cellules de prière dans ta maison. C'est formidable, c'est super la foi que tu as. Mais comment elle se manifeste maintenant? T'as une bonne relation avec Dieu? Mais maintenant, c'est quoi ta relation avec les autres? Ah oui, c'est vrai. Je vois que t'as beaucoup d'amour pour tous les saints. Certainement, à cause de ses richesses, ce chrétien devait être généreux, bon avec les chrétiens. Et moi, je suis persuadé de ça. Et vous savez quoi? Un bon chrétien,
et
c'est ce qu'il fait. Il a de la foi dans le Seigneur. Il a une bonne relation avec Dieu. Il a une bonne relation avec les chrétiens. Mais la chose que Philémon doit changer, c'est le problème de la relation avec quelqu'un qui l'a blessé. Avec quelqu'un qui lui a fait mal. Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que la foi allait tester.
Hein.
Vous savez, on peut dire, moi j'ai la foi. Tant que ça va bien, je peux le dire.
Mais
tant que ma foi n'est pas mise à l'épreuve, je ne peux pas finalement prouver que j'ai la foi. Je peux dire à mon mari, à mon épouse, à mes enfants, oh, je t'aime. Mais s'il n'y a pas une situation qui est délicate, où je dois lui montrer mon amour malgré la blessure, je ne peux pas lui dire vraiment que je l'aime. Le véritable amour, la véritable foi est au-dessus de tout ça. C'est quelque chose qui est prouvé. C'est quelque chose qui est éprouvé. Et ce que l'apôtre Paul dit là, il lui dit pas, tu sais quoi, sois pas blessé. L'apôtre Paul ne demande pas à Philémon de faire semblant que rien ne s'est passé.
Moi, je
veux dire une chose, c'est que quand vous êtes blessé, le pardon, ça n'est pas d'oublier la faute en disant, bah non, tiens, je fais, tiens, c'est comme si de rien n'était.
Non,
c'est pas ça. Mais c'est aimer la personne. C'est garder la personne, c'est la chérir, lui faire du bien. Malgré le mal qui a été fait. Et ça, le mal est toujours mal. Même quand il est sanctifié par le sang de l'agneau, ce qui est mal est mal. Comprenez que le péché n'est pas devenu saint hein, au travers de la croix. Ok, la croix sanctifie pas le péché, elle sanctifie le pécheur. Et donc là, la Philémon a sa foi qui est mise à l'épreuve. Il a son amour qui est mis à l'épreuve. Et là, l'apôtre Paul demande à Philémon de se consacrer davantage.
Et vous savez
ce que c'est la consécration? La consécration, c'est ça. Souvent, quand on dit, tiens, moi je vais plus me consacrer.
Et
quand on dit, ben, est-ce que tu peux te plus te consacrer, ben, on pense, ah ben, je vais plus prier, je vais plus lire. Ça, c'est de la technique, c'est quelque chose, mais c'est pas ça la consécration. La consécration, c'est l'ensemble des efforts que je vais déployer. Pour maintenir ma vie dans la main de Dieu. Pour permettre à Dieu de faire son œuvre efficace en moi. C'est ça la sanctification. C'est ça la consécration. La consécration, c'est faire ces efforts-là pour permettre à Dieu de faire son œuvre. La Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». La sainteté, la pureté est plus une question de cœur que d'apparence extérieure. C'est quelque chose qui est là à l'intérieur de moi, qui agit en moi, c'est quelque chose qui est là plus vivant en moi
qu'une
attitude comme avaient les pharisiens. Hein. Qui était bien à l'extérieur, mais qui à l'intérieur était critique, était médisant, était ceci, cela, cela. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce matin? Est-ce que vous êtes toujours là? Allez là? Ou est-ce que vous êtes tellement attentif que...
Ok.
Quelqu'un qui est consacré, ça va se voir. Dieu fera de grandes choses par vos mains dans la mesure de la consécration que vous avez avec Dieu. Écoutez ce que je vais vous dire maintenant, vous êtes attentifs là? Vous ne pouvez pas être plus transformé que vous n'êtes rattaché à Dieu. Votre transformation, votre succès dépend directement de votre consécration que vous avez avec Dieu. Et si vous avez une bonne relation avec Dieu, ça va se voir, ça va s'entendre, ça va être manifeste. Est-ce que vous avez pu voir là, ces derniers temps, peut-être dans des reportages, les
béquets?
Les béquets, ce sont des personnes de couleur blanche, mais qui parlent créole. Hein? Moi, je parle comme ça, je parle créole.
Voilà.
Et ça fait bizarre, parce qu'on a l'habitude d'entendre des Martiniquais, des Guadeloupéens, hein, des Antillais, avec un accent créole, et c'est très joli, c'est très chantant. Et puis, le fait de voir une personne blanche là, parler créole.
Bah t'as certes sang mi mi.
Mais vous êtes pas créole.
C'est Martinique.
C'est parce que depuis des années. Depuis des années, de génération en génération, ils ont grandi là, et ils ont pris l'accent qui est là.
Maintenant,
si vous vivez dans un autre pays, vous allez prendre l'accent de l'autre pays.
Pourquoi? Parce que
c'est une histoire de relation.
Si
vous êtes en relation avec Dieu, ça va se voir, ça va être manifeste. Maintenant, moi, ce serait magnifique si, au bout d'une prière ce matin, moi, je priais pour vous et puis en disant, bah, ça y est, maintenant, vous êtes transformés.
Okay.
Attention à ce que je vais dire une formule magique. Et au son de ma voix, tu vas être transformé.
Okay.
Par les mains, là, tu vas être... Okay. Ça marche pas comme ça. La transformation, c'est quelque chose qui se fait d'abord à l'intérieur de nous. C'est quelque chose que l'on désire. Et qui dépend de notre relation avec Dieu.
Maintenant,
quand je rencontre des gens, ils me disent, ouais, mais regarde, il change pas. Et puis, il changera jamais. Et puis, ça marche pas. Mais ça ne marchera jamais, effectivement. Tant que la personne elle-même n'a pas décidé d'avoir une relation avec Dieu forte. Parce qu'il y a des choses dans le domaine des relations qui ne peuvent changer qu'avec une intervention divine. Il y a des choses qui dépendent de ma consécration. Et comprenez que si vous voulez être heureux dans votre vie, il doit y avoir absolument une consécration avec Dieu. Une forte relation avec Dieu. Sinon vous allez tout le temps lutter avec la chair. Tout le temps lutter avec vos propres désirs. Et la consécration, l'amour et la foi, elle est éprouvée. Elle est éprouvée dans la vie. Là, on va voir une série de messages prochainement sur comment triompher des épreuves de la vie. Parce qu'il y a toujours des épreuves dans la vie, mais c'est l'attitude, c'est le regard, c'est ce que je pense sur ce... C'est ce que j'ai dans mon esprit à ce moment-là qui change les choses. La consécration est vitale dans la vie du chrétien parce que c'est de cette consécration que vont naître des transformations. La qualité de ma transformation est rattachée à la relation que j'ai avec Dieu, la qualité de mes relations avec les gens est rattachée à ma transformation. C'est profond, ça. C'est profond, hein. Je vais répéter, je veux que ça pénètre bien dans vos esprits, parce que on est en train de vous enseigner comment être heureux, hein, comment revivre. Hein. Si la qualité de ma transformation est rattachée à la relation que j'ai avec Dieu, la qualité de mes relations les uns avec les autres est rattachée à ma consécration que j'ai avec Dieu, avec ma relation que j'ai avec
Dieu.
Si moi je suis pas transformé par la relation que j'ai avec Dieu, je peux pas avoir de bonnes relations avec les gens.
C'est
aussi simple que ça. Quand je rencontre des couples en difficulté, des familles en difficulté, en souffrance, en douleur, c'est un problème de relation parce qu'il n'y a pas eu de transformation au bon moment. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un problème de transformation. Amen. C'est pour ça que ne dites pas, moi je suis chrétien, etc.
S'il
n'y a pas de transformation dans votre vie. Si vous n'avez pas de bonne relation avec les gens, moi je sais que vous n'êtes pas connecté avec Dieu. Je juge personne, hein, je dis ça, mais c'est une constatation. Parce que l'amour de Dieu qui est largement répandu dans nos cœurs, elle excuse tout, elle pardonne tout, elle ne soupçonne pas le mal, elle ne trahit pas, elle n'est pas là derrière. Non, le véritable amour. C'est quoi? Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. La Bible dit que mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce que vous aimez être en relation avec des personnes qui sont remplies de d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bénignité, de fidélité, d'amour, de tempérance? Ou alors, est-ce que vous préférez être avec des gens qui sont toujours frustrés, en colère, qui parlent sur les autres, qui sont malheureux? Dites-moi, les femmes, un mari plein d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de fidélité, de douceur, de tempérance, est-ce que c'est agréable ou c'est mieux l'inverse? Est-ce que c'est agréable de vivre comme ça? Amen. Bon. Maintenant, les maris. Une femme remplie de joie, de bonté, de paix, d'amour, de fidélité, de tempérance. Est-ce que c'est pas mieux qu'une femme qui se plaint tout le temps, qui est en colère que... Amen. Les hommes n'osent pas parler. Donnez pas de coup de coude. Mais moi, je sais que c'est vrai. Et arrêtez de croire que mari ou épouse ou parent avec les enfants, arrêtez de croire que vous êtes invisible. Les gens voient ce que vous faites. Les gens savent qui vous êtes. Moi, si quelqu'un me demande, tiens, moi, je veux prêcher. Je vais d'abord parler avec son épouse. Pour savoir comment ça se passe. Parce que moi, je vois que des choses extérieures. Mais la personne qui le connaît le mieux, c'est l'épouse. Voyez-vous, c'est... Personne ne va vouloir prêcher maintenant. Personne ne va venir me dire, moi je veux prêcher. Alléluia. Amen. Ne dites pas, moi j'ai été transformé. Moi je veux que ce soit les gens de votre entourage qui me le disent que vous êtes transformé. Amen. Les gagneurs d'âmes, ceux qui gagnent des âmes, ce sont ceux qui ont un bon comportement, de bonnes relations. Parce que vous savez quoi, les gens autour de nous savent si vous êtes chrétien ou pas. Et si vous vous dites, bah, moi je suis chrétien, et que vous faites quelque chose qui n'est pas chrétien, et si vous faites quelque chose qui n'est pas chrétien, ils vont dire, ah, c'est ça un chrétien?
Hein?
Parce que vous savez quoi, les gens du monde savent ce qu'un chrétien est supposé faire. Hein? Parfois mieux que le chrétien lui-même.
Hein?
Ils savent comment vous devez parler. Les gens savent ça. Amen. Le problème des relations, c'est un problème qui est crucial dans la vie de quelqu'un. C'est quoi le cri des gens qui veulent se suicider? C'est, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre soin de moi, qui m'aime? Qui me respecte? Quelqu'un qui ait une vraie relation avec moi. Pas quelqu'un qui rentre chez lui le soir et qui n'embrasse pas sa femme et puis qui prend son journal et puis qui a aucune communication. Et par contre, quand il se retrouve avec des copains, alors là il parle. Non. Les relations doivent être renouées. Et les parents avec les enfants, c'est ça. C'est quoi, chers parents, il n'y a aucun jeu. Il
n'y
a aucun jeu vidéo. Il n'y a aucun programme à la télé qui peut remplacer un moment de communication avec vos enfants.
Il n'y a
absolument rien qui peut remplacer un moment de communication avec votre épouse. avec votre époux.
Si vous
lisez la Bible 3 heures par jour,
c'est
absolument merveilleux, c'est bien.
Rachalia.
Mais si vous parlez 5 minutes à votre conjoint, bah, laissez votre Bible de côté et parlez plutôt à votre conjoint. C'est vital ce problème de relation, c'est quelque chose qui est crucial dans la vie de quelqu'un. Il y a dans le cœur de chaque être humain ce désir de communiquer, d'être en relation.
Et
le cri des gens dépressifs, c'est: est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime? Est-ce qu'il y a une personne qui peut me comprendre? Maintenant, Paul sait qu'il y a un problème entre Onésime et Philémon.
Et je vais
terminer là-dessus parce que je ne veux pas être trop long, je le sais. Je suis déjà très long ce matin, je vais poursuivre la semaine prochaine. Philémon a été volé, trahi, blessé, déshonoré. Son serviteur, son esclave, celui qu'il nourrissait pourtant, celui-là même l'a volé.
Et
dans le cœur de ce chrétien blessé, il y a quelque chose qui est né là, et c'est une amertume. Onésime a affaire, lui, avec les blessures du passé. Ou avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, lui n'était qu'un voleur, un esclave, un homme sans nom, sans valeur. Et lui, Onésime, son besoin, s'il a un besoin affectif. Il a peur d'être rejeté par Philémon. Il a peur d'être rejeté par celui qui est maintenant son frère. Paul sait que Philémon, parce qu'il est consacré, est ce genre de personne qui peut faire un pas de plus. Et ce matin, moi, j'aimerais qu'on puisse se lever quelques instants. Et j'aimerais vous défier à faire dans votre vie un pas de plus.
Il
y a tellement, tellement de choses à dire. On va rentrer dans le vrai sujet la semaine prochaine. Là, je vous ai présenté ce matin la base de problèmes, des relations. Mais j'aimerais, pour quelques instants, qu'on puisse fermer nos yeux. Et j'aimerais que vous puissiez rentrer en vous-même et savoir là où vous pouvez agir pour rétablir des relations. Peut-être que ce matin, c'est un problème de relation avec Dieu que vous avez déjà. Vous ne pouvez pas avoir de bonnes relations, des relations durables avec quelqu'un si votre relation avec Dieu n'est pas renouée. Moi, je vais prier pour vous ce matin. Déjà pour ce genre d'ami qui est là, ici, et qui souffre d'une relation avec Dieu. Quelqu'un qui a perdu la foi. Quelqu'un qui ne ressent plus rien dans l'église. Quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu. Et quand on vous parle de foi et d'amour, il n'y a rien qui passe. Non, moi je
n'y arriverai
pas. C'est quoi, vous allez y arriver? Parce qu'on va prier. Alléluia. Et dans votre esprit, vous allez croire, vous allez dire: oui, mais je vais essayer de le faire. L'apôtre Paul demandait à Philémon: oh, je demande à Dieu ta participation à la foi. Vous devez avoir la foi. Vous Vous avez tous la foi, vous avez tous un niveau de foi. Je vous demande d'entrer avec ce niveau de foi dans la présence de Dieu, dans cette prière, en disant « Seigneur, je vais essayer de croire que tout est possible. » Oui, rien n'est impossible à Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit. Alléluia! Moi je crois ce matin en une nouvelle relation avec Dieu. Je vais y arriver, Seigneur. Je veux nouer des relations avec toi. Je vais pouvoir entrer dans de nouvelles relations avec les autres. Je vais éloigner de moi le jugement, le rejet, la critique. Je vais arrêter de parler sur les autres, mais je vais voir ma vie, je vais m'appliquer à être saint et à être consacré. Seigneur, je veux te servir plus. Seigneur, je veux accepter mes frères et mes sœurs tels qu'ils sont. Je veux accepter mon prochain tel qu'il est. Et je veux croire en lui. Je veux voir par la foi une transformation dans sa vie. Alléluia! Amen, je crois de tout mon cœur, Seigneur. Alléluia!
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.